Laudetur Jesus Christus.
Commémoration hier de Saint-Étienne, le pape François a centré son Angélus sur la figure du premier martyr chrétien et a invité à prier pour tous les hommes et les femmes persécutés en raison de l'Évangile. L'Église universelle est entrée dans une année de grâce, de renouveau et d'espérance. Le coup d'envoi du jubilé 2025 a été donné par l'ouverture de la porte sainte de Saint-Pierre la nuit de Noël. Une autre porte symbolique a été ouverte par François hier dans une prison romaine. Elle invite les prisonniers du monde entier à regarder l'avenir avec espérance. Mais comment apporter cette vertu en milieu carcéral ? Réponse dans notre dossier en fin de journal avec un aumônier laïque officiant à la maison d'arrêt de Sarreguemines dans l'est de la France. Et puis à suivre, coup de projecteur sur les conditions de détention des Palestiniens dans les prisons israéliennes. Plusieurs centres pénitentiaires sont accusés de torture depuis le 7 octobre 2023.
Radio Vatican, le journal. Alexandra Sirgan.
Bonjour à tous. Hier, l'Église universelle a commémoré Saint-Étienne, premier martyr chrétien condamné après la mort du Christ. Un homme vraiment libre qui continue à aimer ses assassins et à offrir sa vie pour eux comme Jésus, a expliqué le pape François lors de son Angélus place Saint-Pierre hier midi. Le Saint-Père a une pensée pour les chrétiens persécutés aujourd'hui dans le monde en raison de leur foi. Compte rendu signé Stanislas Cambachi.
Si à première vue, Étienne semble subir la violence de manière impuissante, en réalité, c'est un homme libre qu'il continue d'aimer même ses assassins et d'offrir sa vie pour eux, tout comme Jésus. Le diacre Étienne apparaît alors, explique François, comme le témoin de ces dieux qui a un unique grand désir, que tous les hommes soient sauvés. Il est le témoin de ce père qui ne se lasse jamais de chercher ses enfants et de les accueillir quand, après s'être égaré, ils reviennent à lui dans le repentir.
Il padre qui ne si stanca mai di cercarli, di raccoglierli, quando dopo essere allontanati, ritornano pentiti a lui.
Le pape François a ensuite dressé un parallèle entre le martyr de Saint-Étienne et la persécution de beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui en raison de l'Évangile. Il ne se laisse pas tuer par faiblesse, ni pour défendre une idéologie, mais pour partager avec tous les dons du salut. L'évêque de Rome a ensuite convoqué un autre martyr, le bienheureux Christian de Chargé, pris en otage et assassiné aux côtés des 6 autres moines de Tibérine en 1996. Il a conclu sa prière en demandant aux fidèles de s'interroger. Est-ce que je m'intéresse et j'ai pris pour tant de frères et de sœurs persécutés à cause de la foi?
M'intéresso e prego per tanti fratelli e sorelle perseguitati a causa della fede.
Et à l'issue de la prière mariale, le pape François a encouragé les fidèles à soutenir la campagne de Caritas portant sur la remise des dettes dans les pays les plus pauvres. Un sujet au cœur du message pour la 58e journée mondiale de la paix célébrée le 1er janvier, mais aussi au cœur du message de Noël du pape François que vous pouvez retrouver sur notre site internet vaticannews.va. Le Saint-Père a renouvelé ses appels pour la paix dans les pays en guerre, en citant en particulier l'Ukraine, Gaza, Israël, la Birmanie et la région du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et puis, à l'issue de l'Angélus, l'évêque de Rome a exprimé son souhait de paix et de fraternité pour le peuple juif qui célèbre depuis le 25 décembre Hanouka, la fête des Lumières. Avant l'Angélus, le pape a célébré hier matin une messe dans la prison de Rebibbia à Rome, auprès de 300 détenus, surveillants pénitentiaires et policiers réunis dans l'église du Notre Père, qui, le temps d'une matinée, est devenue une cathédrale de la douleur et de l'espérance. Une deuxième porte sainte y a été ouverte, 2 jours après celle de la basilique Saint-Pierre. Un message fort et symbolique pour les détenus du monde entier, a expliqué le Saint-Père. On l'écoute.
J'ai voulu ouvrir grand la porte aujourd'hui, ici. La première, je l'ai faite à Saint-Pierre, la seconde, c'est la vôtre. C'est un beau geste que d'ouvrir les portes. Mais le plus important, c'est ce que cela signifie. C'est ouvrir le cœur. Et c'est ce que fait la fraternité. Les cœurs fermés, les cœurs durs n'aident pas à vivre. C'est pourquoi la grâce d'un jubilé est d'ouvrir. Et surtout d'ouvrir les cœurs à l'espérance. L'espérance ne déçoit pas, jamais. Pensez-y bien. Je l'ai pensé aussi parce que dans les moments difficiles, on pense que tout est fini, que rien n'est résolu. Mais l'espérance ne déçoit jamais.
Accrochez-vous à l'espérance et gardez vos cœurs ouverts. Le message du pape François aux prisonniers en ces débuts de jubilé. Mais les célébrations jubilaires ne font-elles que commencer, Jean-Charles Puzzolu?
Oui, Alexandra, effectivement, nous n'en sommes qu'au début. Si l'on regarde les tout prochains événements, il y aura l'ouverture des portes saintes des basiliques papales, la basilique Saint-Jean de Latran le dimanche 29 décembre, Sainte-Marie-Majeure le 1er janvier et Saint-Paul-hors-les-Murs le 5 janvier. Ces trois portes saintes seront ouvertes par les archiprêtres de chacune de ces basiliques. Parallèlement, bien évidemment, les célébrations liturgiques du pape François se dérouleront comme prévu avec le Tédéum du 31 décembre, la messe du 1er janvier pour la solennité de Marie, Mère de Dieu, la célébration de l'Épiphanie le 6 janvier et le baptême du Seigneur le dimanche 12 janvier dans ce cadre exceptionnel qu'est la chapelle Sixtine. Le 29 décembre, c'est aussi la date choisie par l'évêque de Rome pour que l'année sainte soit solennellement ouverte par les évêques diocésains dans toutes les cathédrales et co-cathédrales du monde. Quant à Rome, eh bien, elle sera la destination de plusieurs centaines de pèlerinages dès les premiers jours de janvier avec le mouvement spirituel Tranoï, les enseignants catholiques italiens, les mouvements de jeunes et les premiers pèlerinages diocésains. Bref, la ville éternelle va grouiller de pèlerins qui convergeront vers les portes saintes des basiliques et qui auront aussi la possibilité d'assister aux audiences générales jubilaires, car oui, le pape François a programmé, en sus des audiences du mercredi, des audiences générales un samedi par mois, et la première se tiendra place Saint-Pierre le 11 janvier.
Merci Jean-Charles Puzzolu. À la une de l'actualité internationale, les frappes israéliennes qui ont visé hier des sites contrôlés par les rebelles houthis au Yémen, dont l'aéroport de Sanaa. Et ce alors que le directeur général de l'OMS se trouvait dans l'aéroport. Il a déclaré être sain et sauf, mais un membre de l'équipage de son avion a été blessé. Le secrétaire général de l'ONU a condamné l'escalade des tensions entre Israël et les houthis. Il a ajouté que ces frappes suivaient une année d'escalade de la part des houthis, soutenus par l'Iran et solidaires des Palestiniens. Depuis le 7 octobre. La bande de Gaza frappée par de nouvelles frappes israéliennes également hier, au moins 45 morts selon différentes sources palestiniennes, dont des journalistes et des membres de l'un des deux seuls hôpitaux encore opérationnels dans le nord du territoire palestinien. Après une maigre lueur d'espoir ces derniers jours, les négociations pour un cessez-le-feu et la libération des otages israéliens sont au point mort. Le Hamas et l'État hébreu s'accusent mutuellement d'enrayer les négociations en cours à Doha. Parmi les principaux points de blocage entre Israël et le Hamas figurent le caractère permanent ou non d'un cessez-le-feu et la gouvernance de Gaza après la guerre. Il y a également la question du retour des prisonniers palestiniens détenus par Israël. Leur nombre aurait explosé depuis le début de la guerre et les conditions de détention se seraient drastiquement empirées. Les précisions à Jérusalem de Valérie Ferron.
Si les conditions de détention des prisonniers palestiniens étaient déjà dénoncées comme inacceptables par les associations des droits de l'homme bien avant le 7 octobre 2023, elles ont été rendues extrêmes après cette date, la puissance occupante israélienne ayant décidé de suspendre tous les traitements médicaux et de priver la plupart des adultes et des adolescents incarcérés de nourriture et d'eau potable en suffisance, de vêtements de rechange et de produits d'hygiène personnelle, alors que les douches sont rares et réduites à 3 minutes à chaque fois. Les tortures déjà courantes avant sont devenues d'une cruauté sans nom selon les associations de soutien aux prisonniers et comprennent notamment des sévices sexuels sans précédent. Ces tortures ont conduit à la mort d'au moins 47 personnes en un an, dont un éminent chirurgien de la bande de Gaza, les milliers de médecins, journalistes, travailleurs humanitaires et simples civils arrêtés dans ce territoire subissent les tortures les plus cruelles. Il est difficile de savoir le nombre précis de personnes arrêtées par l'armée dans la bande de Gaza, les noms de centaines d'entre eux n'ayant pas été divulgués et leur lieu d'incarcération reste inconnu. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Si les pourparlers peinent à aboutir à Doha, elles pourraient bientôt voir le jour entre la Russie et l'Ukraine. La tenue de négociations de paix pour mettre fin au conflit est de plus en plus évoquée à moins d'un mois du retour à la Maison Blanche de Donald Trump. Vladimir Poutine a affirmé jeudi que la Slovaquie avait proposé d'être une plateforme de négociation. Nous ne sommes pas contre, a souligné le président russe, louant la position neutre de la Slovaquie. Robert Fico, l'un des dirigeants européens resté proche du Kremlin, a rencontré le président russe à Moscou le 22 décembre, allant à l'encontre de la politique d'isolement appliquée par les Occidentaux. Et pendant ce temps-là, en Ukraine, pas de trêve pour Noël. Plusieurs responsables politiques ont vivement condamné l'attaque massive de missiles et de drones russes sur le système énergétique ukrainien qui a fait un mort le 25 décembre et privé plus d'1 million de clients de chauffage dans la région de Kharkiv. Hier, Saint-Étienne et lendemain de Noël, le pape a posé le premier geste significatif de ce jubilé 2025 placé sous le signe de l'espérance. Il a ouvert, je vous le disais plus tôt, une porte sainte dans une prison, celle de Rebibbia à Rome. L'espérance n'est pas nécessairement la première vertu qui vient à l'esprit en milieu carcéral. Si la prison a officiellement pour tâche dans de nombreux pays de préparer les détenus à la réinsertion au sein de la société, elle n'est généralement que le prélude à d'autres incarcérations. Certains détenus font appel à un aumônier, leurs raisons sont multiples, mais pour les aumôniers catholiques, c'est une occasion unique d'apporter un peu d'espérance et d'aider les condamnés ou les personnes en attente de jugement à poser un regard différent sur eux-mêmes. Bernard Biette est un aumônier laïque, père de famille. Il officie à la maison d'arrêt de Sarreguemines, dans l'est de la France. Il nous confie son expérience et la manière de transmettre l'espérance en prison.
Pour moi, l'espérance, c'est venir au nom ou avec et à côté de Jésus dans une cellule, dire à nos frères en détention que Dieu est avec eux, que Dieu ne les a pas abandonnés malgré la faute qu'ils ont faite. Et je pense que le rôle de l'aumônier, c'est de leur apporter cette certitude qu'ils restent aimés de Dieu. Je pense que l'espérance, elle est là. C'est leur donner cet espoir, cette espérance-là, que Dieu les aime autant que nous qui venons les voir.
Est-ce que le fait de parler d'espérance, c'est aussi une manière de les amener sur le chemin de la rédemption, aussi bien du point de vue spirituel que du point de vue, on va dire, beaucoup plus prosaïque, du point de vue social?
C'est les deux, puisque en prison, ils ne voient que des professionnels de la justice. Nous, nous sommes des bénévoles et nous ne sommes là que pour leur montrer que dehors, il y a aussi des gens qui pensent à eux et il y en a sans doute d'autres qui leur veulent encore du bien. Donc, ça participe à l'idée de réinsertion dans la société, en leur montrant que dehors, tout le monde n'est pas contre eux. Je pense que s'il y a ces deux aspects-là.
Est-ce que ce sont les détenus qui vont vers vous et qui vous parlent de cette espérance? Est-ce qu'il y a ces sortes de sollicitations, de préoccupations qu'ils ont, ou bien c'est vraiment quelque chose que vous suscitez en eux?
Je pense qu'on l'initie. Par principe, on ne va voir évidemment que ceux qui sollicitent notre venue pour de multiples raisons, mais je ne sais pas si la majorité d'entre eux formulent vraiment la notion d'espérance. Ils ont de l'espérance en eux, mais je ne pense pas qu'ils mettent le terme espérance, je ne crois pas.
Qu'est-ce qui les pousse à vous solliciter?
Il y a de multiples raisons. Il y en a des basiques terre à terre, de voir quelqu'un, de discuter avec eux, ça c'est humain. Ils savent aussi que s'ils font appel à nous, ils savent pour qui on vient, pour quelles raisons. Et donc, il n'y a pas que le côté humain, je pense qu'ils ont besoin de se sentir écoutés. Et c'est en les écoutant qu'on voit un peu ce dont ils ont besoin, pourquoi ils nous ont fait venir. Et l'espérance fait partie de cette démarche que nous avons vis-à-vis d'eux et qu'eux ont vis-à-vis de nous, quoi, pour qu'on les aide dans leur démarche de détenus, qui va de la révolte à l'acceptation, à la demande de pardon et à un vivre différent en sortant.
Est-ce que votre mission et l'espérance que vous apportez, que vous rappelez à ces détenus, est-elle d'autant plus importante?
Je pense qu'on participe à ça. Peu qu'on voit quelques mois, voire quelques années, on voit qu'ils évoluent. Ils évoluent vis-à-vis de la faute qu'ils ont faite, vis-à-vis de la victime, ça c'est certain, et vis-à-vis d'eux-mêmes, parce qu'ils trouvent une certaine sérénité, une certaine paix, où je pense on est pour quelque chose. Et ça les aide à évoluer lorsqu'ils sont en détention, puisque c'est très dur, mais ça les aide aussi, je pense, à franchir la porte de sortie, donc la réinsertion.
Le pardon, c'est quelque chose dont vous parlez beaucoup avec les détenus.
Il est clair qu'on leur dit que Dieu pardonne, ça c'est certain. On leur dit que sa miséricorde est infinie, mais que eux aussi doivent accepter ce pardon, c'est aussi important. Et c'est là-dessus qu'on discute avec eux. Sans oublier, évidemment, c'est facile en tant qu'aumônier, pas d'oublier, mais de ne pas assez souvent peut-être penser à la victime, mais on essaie aussi d'inclure cette dimension dans les paroles qu'on leur donne.
Interrogé par Xavier Sartre, Bernard Biette, aumônier en prison à l'est de la France, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ici s'achève ce journal. Merci pour votre écoute et votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. J'aurai l'immense plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal en français à 13h, heure de Rome. Belle matinée à toutes et à tous en attendant.